Bonsoir et bienvenue dans ce 29e épisode de la deuxième saison de Culture Sans et Hors, l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple sans et hors. Pourtant, vous le savez puisque vous suivez le club de près, le RC Lens ne jouait pas ce week-end, la trêve internationale, mais ça n'empêche pas certains Lensois d'être sur les terrains et notamment le néo-bleu Jonathan Clauss qui a joué ses premières minutes vendredi et qui risque bien d'être titulaire demain. Pour l'instant, on va parler quand même du Racing et au cours de l'émission, on évoquera notamment dans l'actu du Racing le match de la N2, hein, puisque la N2 jouait il y a ce week-end, samedi. Et petit spoiler, la N2 s'est imposée. Et oui, on profitera de ce week-end sans match des pros aussi pour poser eh bien, cette question et lancer un débat. Une potentielle qualif des 100 et or en Coupe d'Europe en fin de saison serait-elle une bonne chose pour le club ? Vous me donnerez votre avis au cours de l'émission. Et puis enfin, en deuxième partie, on s'intéressera plus spécifiquement à notre invité, hein, que je vous présente dans un instant. Et puis on se tournera bien sûr vers la méno entre du prochain match des Lensois. Ce sera à Strasbourg dimanche à 13h. Pour parler de cette actualité, je vous présente le casting de ce 29e épisode de Culture Sans Yor, avec celui qui est aussi passionné qu'incontrôlable. Quand Jonathan Clauss est entré sur le terrain vendredi, il paraît qu'il a fait le tour de son quartier torse nu. Un drapeau autour de la taille, Greg Lallemand de La Voix du Nord et de La Voix des Sports est avec nous ce soir. Salut Greg.
Salut à tous, c'est pas vrai mais sinon je pense que j'aurais plus de voisins depuis un bout de temps. Je pense qu'ils auraient tous quitté le quartier, je pense.
Allez, on le surnomme La Mémoire, c'est l'un des rares chroniqueurs qui peut prétendre à la victoire au quiz Culture Senior chaque semaine. Je suis certain qu'il se souvient encore du seul but inscrit par notre invité du soir en Pro Racing. Guillaume Perrard est de retour avec nous, salut Guillaume.
Salut Valentin, salut à tous les supporters lensois.
Lui aussi fait son retour au micro de Culture Senior. Il raffole des contre-pressings, de la gestion des déséquilibres et des pistons qui coulissent. Amaury de Monchaud sera notre troisième chroniqueur. Salut Amaury.
Salut Valentin, bonsoir à tous.
Enfin, il a été formé au Racing, était l'un des piliers du milieu de terrain de la réserve lensoise. Il a fait quelques matchs en pro également avant de rejoindre Quevilly, club où il a eh bien, par la suite découvert un certain Jonathan Clauss et avec qui il s'est lié d'amitié aujourd'hui. Il joue en national à Sedan, il va nous raconter tout ça au cours de l'émission. C'est Anthony Rogy qui est avec nous dans ce 29e épisode. Salut Anthony.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Allez messieurs, il est temps de démarrer l'émission et de siffler cette première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Culture Sans Yor sur les réseaux. C'est sur Twitter, Facebook et Instagram que ça se passe. Rendez-vous aussi sur notre site web culturesansyor.com. Vous pourrez retrouver plein d'articles sur le club et notamment notre édito comme un lundi avec aujourd'hui Mathieu qui nous parle justement de l'engouement autour de la sélection de Jonathan Clauss en équipe de France. Figurez-vous, je ne sais pas si vous le saviez, que la FFF est en pénurie de lettres pour le flocage des maillots. Je vous laisse deviner lesquelles. On ne s'attendait pas à autant de commandes, disent-ils, en interne. La contagion qui a depuis longtemps envahi les supporters lensois s'en va voir depuis atteint la France du foot tout entière, à en juger notamment par l'acclamation à son entrée sur la pelouse du Vélodrome vendredi. De la fierté de voir le RC Lens de nouveau au premier plan s'ajoute celle de voir ce garçon de 29 ans au parcours si atypique, ce joueur tellement en adéquation avec l'esprit du Racing. Là où souvent est évoquée la nécessité de jouer dans un club UP ou de participer à une compétition européenne pour justifier des sélections en équipe de France, ne serait-il pas plus intéressant de mettre en avant les valeurs de simplicité, de travail ou de courage et d'humilité pour intégrer la Maison Bleue ? Eh bien, c'est le débat, en tout cas, que lance Mathieu sur culturesansyor.com. Bon, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet et on va d'abord parler eh bien, d'une chose qui va faire plaisir. Cela faisait presque 5 mois que ça n'était plus arrivé. La réserve du Racing Club de Lens s'est imposée ce week-end. Et oui, au cours d'une saison extrêmement compliquée hein, pour les hommes de l'équipe de Johan Desmond qui joue sa survie hein, en National 2. Eh bien, les Lensois ont relevé la tête samedi en allant s'imposer sur le terrain de la réserve du stade de Reims. Un succès net, 3-0. C'était sous le regard d'ailleurs du staff pro hein, du Racing qui était présent. Christopher Wu, qui a été mis à la disposition de la réserve, a notamment ouvert le score de la tête sur corner. Et puis Baldé et Camara ont terminé le travail en seconde période. Et puis la bonne nouvelle, c'est que Metz, Belfort et Chelsea Games sont inclinés ce week-end. Et donc le Racing fait la bonne opération hein, dans la lutte pour le maintien en revenant à 3 points de Belfort, hein. Greg, tu as suivi un petit peu ce match de la réserve.
Ouais. Ouais, j'ai suivi des gros extraits. Alors, au-delà de simplement de la performance assez solide hein, quand même de la réserve, bah, c'est surtout un ouf de soulagement, hein, une grande bouffée d'oxygène parce que cette équipe, elle a plus trop le droit de se louper. Ce match à Reims, c'était quand même pas gagné d'avance, hein, clairement. Et puis l'ouverture du score de Christopher Wu a permis à cette équipe de se libérer un peu. Et puis, en fin de match, de profiter aussi des largesses et des erreurs des défenseurs et moi. Mais surtout, elle a été solide. Parce qu'elle a eu beaucoup de matchs entre les mains depuis le début de saison où après elle a fait où cette équipe elle a derrière fait n'importe quoi, certainement par jeunesse, aussi par inexpérience, et puis aussi parce qu'on a un manque de confiance qui fait que les pieds tremblaient au moment de finir les matchs. Et elle a perdu beaucoup de points comme ça. Donc voilà, c'est la première victoire effectivement depuis début du mois de novembre. Autant dire qu'il faut qu'elle voilà, que ça en appelle d'autres. Et l'espoir est encore vivant et c'était pas encore sûr il y a quelques semaines. Donc voilà, il faut y croire pour les jeunes en soi. On verra ce que ça donnera.
Ouais, ils reviennent à 3 points, hein,
ouais, 3 points
pour se sauver. Pour l'instant, il reste encore quelques matchs. Anthony, toi, tu suis encore un petit peu de loin, peut-être la réserve ou plus du tout hein.
Ben, je suis de loin parce que j'ai Bilal Hamdi qui est revenu au club.
Ouais.
Donc d'un peu plus près maintenant. Bon, je savais que la saison elle était un peu compliquée, mais ouais, je suis de loin. J'ai vu Samba aussi qui est.
Ouais.
Et qui est revenu, donc ouais, c'est important quand même de garder la N2 à ce niveau-là, que ce soit pour les redescentes et même pour la progression des jeunes, c'est toujours plus intéressant.
Ouais, on est d'accord. Et puis une autre info hein, que je voulais vous donner dans l'actu du Racing, c'est sorti hein, aujourd'hui, Greg, dans la Voix du Nord, la Voix des Sports, c'est Wesley Saïd hein, qui serait de nouveau blessé.
Ouais, ça c'est pas la bonne nouvelle. Hein. Wesley Saïd qui cumule voilà avec l'alternance les retours sur le terrain souvent très très bons et les blessures. Voilà, il
souffre faire long quand même. Hein.
Oui, là ça fait long et puis c'est surtout que voilà c'est redondant et c'est sûr bah voilà il est plutôt ouais, il faut le plaindre plutôt que l'accabler et c'est un joueur en plus qui s'implique vraiment dans la vie du groupe qui est vraiment très important aussi comme les autres hein, mais sûr pour l'équilibre du groupe et sportif et hors dehors donc c'est voilà c'est un peu de la peine et effectivement au-delà de sa peine à lui c'est une difficulté supplémentaire pour le RC Lens à un moment donné où il a besoin de toutes ses forces vives et où il devra notamment on en reparlera plutôt tout à l'heure déjà de se passer de Florian Sotoka à Strasbourg qui est suspendu ouais. Donc ouais c'est pas la meilleure nouvelle qui soit et pour lui et pour l'équipe
ouais, on espère quand même le revoir
ce hein, qui est gênant en plus c'est que la blessure elle a l'air hyper bien identifiée c'est une autre zone mais ils savent pas encore exactement ils sont encore en phase d'examen ils continuent je pense un peu à trottiner mais c'est ouais. Pas une fracture où on sait qu'on va soigner la fracture et on repart quoi. C'est musculaire et du coup c'est toujours un peu embêtant quand c'est mal localisé.
Ouais, c'est dommage hein, parce qu'il faisait quand même une belle saison à Wesley Saïd et on espère quand même le revoir d'ici la fin de saison, mais ouais, il faudrait quand même cibler un petit peu ce qui se passe du côté de Wesley Saïd en termes physiques. Bon voilà, c'était un petit peu l'actu du Racing, on va passer au débat, hein. Le débat que j'avais envie de lancer cette semaine, je me souviens qu'on en avait un petit peu parlé en interne lors de précédentes émissions de Culture sans erreur, en off comme on dit, mais je voulais lancer un débat, je voulais donner hein, le thème en présentation, à l'heure où on se parle, le Racing est pour l'instant plus que jamais en lice hein, pour une qualification européenne en fin de saison, puisque les hommes de Francais sont à 4 points de Strasbourg, qui est l'actuel 5e et qu'on va affronter en plus ce dimanche. La 6e place pourrait même être devenir européenne si les Niçois s'imposent en finale de la Coupe de France, ou les Nantais d'ailleurs, et qu'ils finissent dans les 5 premiers. Et puis les Sangliers, d'ici la fin de saison, vont affronter quasiment tous les prétendants à l'Europe, donc tout reste encore possible à l'heure actuelle. Mais voilà, quand même, si nous sommes nombreux à vouloir retrouver la fièvre des matchs en Bulgarie, en Grèce, en Autriche, au Portugal, il y a de nombreux quand même bien personnes qui se posent encore des questions, parce que c'est vrai qu'on veut retrouver un RC Lens avec un statut en Ligue 1, retrouver bien ce renouveau qui pourrait passer par une qualification en Europe. Et puis il y a d'autres voix qui s'expriment, qui pensent que c'est peut-être un petit peu trop tôt, que le club a besoin de se stabiliser davantage et que potentiellement la saison prochaine pourrait être un petit peu traquenard, sachant qu'il y a 4 clubs qui descendent et que si le Racing se qualifie, ça ferait un enchaînement de matchs qui pourrait peut-être être fatal. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce débat? Et je vais te lancer, Amaury, sur le sujet. Est-ce que tu penses qu'une qualif européenne pour le Racing en fin de saison serait une bonne chose pour le club?
On est obligé de répondre oui, puisque le côté émotion que tu
on n'est pas obligé hein.
le côté émotion dont tu nous fais part, c'est ce qui nous fait aimer le football et donc c'est ce qui nous fait vivre et on a besoin de ça et forcément que ça fait saliver tout le monde. Le club en a besoin parce que ça fait aussi des revenus supplémentaires. Quand on voit, alors c'est à moindre mesure, mais quand tu vois le LOSC, la saison qu'ils font, ils ont quand même, ça a publié cette semaine ou la semaine dernière, là, 70 millions de revenus en plus. Donc on ne peut pas dire que ça ne serait pas intéressant pour pérenniser le club, parce qu'on sait d'où on vient, et pérenniser le club financièrement, c'est l'un des objectifs prioritaires. Maintenant, si on aborde le point sportif, le côté effectif, etc., moi je pense que si on ne se qualifie pas, on va vivre un été mouvementé, avec des joueurs qui sont restés cette saison, alors qu'on pouvait penser en perdre plus. Sans l'Europe, je pense que là, on aura un peu plus de départ. Donc, ce qui veut dire un effectif encore plus compliqué à reconstruire pour l'année prochaine. Alors, certes, on a quelqu'un à la tête du recrutement sportif qui est de très haut niveau, a priori, mais si on peut sauter des doutes et conserver une grosse partie d'effectifs, ça peut être plus positif.
Ah ouais. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs risques. Hein. Après, on n'est même pas sûr si l'on se qualifie en Conference League qu'un Seko Fofana restera forcément non plus. Hein. C'est pas...
Mais si on se qualifie en Europa League.
Pourquoi pas. Guillaume, toi, t'en penses quoi un petit peu de ce débat que je lance? Est-ce que tu crois que ce serait une bonne chose pour le Racing de se qualifier en Coupe d'Europe? Quelle Coupe d'Europe? Si ça se trouve, tu vas me dire oui, l'Europa League, pourquoi pas, la Conference League un petit peu moins. Qu'est-ce que t'en penses?
Déjà, j'en pense qu'en tant que supporter, on ne peut pas faire la fine bouche sur une Coupe d'Europe. Et que même si on pense que dans la progression, en tout cas dans ce que les dirigeants ont imaginé pour le club, ça arrivera peut-être un petit peu vite par rapport à leur plan. Malheureusement, on n'appuie pas sur des boutons et on ne choisit pas. Donc s'il y a une opportunité, je pense qu'on ne peut pas dire bah, on va attendre l'année prochaine et on ne sait pas si elle repassera. Mmh. Donc, ceci étant dit, ça c'est ma position. Ensuite, au niveau des Coupes d'Europe, moi, Europa League, Conference League, ça me dérange. Enfin, pas faire la fine bouche non plus. Mais... La Conference League, en revanche, si, par rapport à l'argument d'Amoury sur l'aspect financier, en Conference League, je ne suis pas sûr que, si justement il faut faire des voyages en Bulgarie, etc., je ne suis pas sûr qu'au mieux ça nous défraye. Je ne suis pas sûr que en termes de revenus vraiment pour le club, ce soit une affaire, entre guillemets, une affaire. Mais nous, on est des supporters et on n'est pas là pour... on ne veut pas gagner des matchs pour que le club il gagne de l'argent. Enfin, même si on sait qu'avec l'argent, on a des moyens, on a des bons joueurs. Mais bon, l'essentiel, c'est de faire un beau parcours en Coupe d'Europe. Et Conference League, il y a quand même des clubs super sympas. Et donc, moi, là-dessus, je suis d'accord. Après, au niveau du recrutement, j'ai l'impression aussi que si on n'est pas en Europe, il y aura du chamboulement. Si on est en Europe, il faudra renforcer aussi fort l'effectif. Donc, de toute façon, le Mercato 2022, à mon avis, il va être assez mouvementé. Et là, je pense que nos dirigeants, là-dessus, ils ont déjà préparé les plans A, les plans B, les plans C. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on aura un mercato calme, quel que soit le résultat de la fin de saison.
Donc, il y aura beaucoup de dire quand même, je pense. Certes, ça ne sera pas un long fleuve tranquille, mais si tu n'as pas eu de Coupe d'Europe, je pense qu'on sera encore plus secoué.
Mais on aura besoin de moins de largeur d'effectifs. Donc, c'est quand même différent. Hein. Et puis, en termes de gestion de groupe, il va falloir augmenter, je pense, les unités, la qualité et le nombre de joueurs. Donc, après, en termes de gestion, coach, il saura le faire, hein, mais c'est aussi une dimension un peu différente aussi en termes d'effectifs à gérer.
Ouais. Greg, toi qui suis le Racing au quotidien pour la Voix du Nord, peut-être que tu as des infos, je sais pas, mais en tout cas toi personnellement, que penses-tu et qu'imagines-tu, qu'est-ce que tu imagines par rapport au fait que si le Racing se qualifie en Europe à la fin de saison, est-ce que tu penses que ce serait pénalisant pour l'année prochaine ou au contraire ce serait une bonne chose?
Bah, je ne sais pas si c'est pénalisant. Regardez, alors Strasbourg s'est qualifié différemment, c'était par le biais de la Coupe de la Ligue, mais finalement, ça a presque légitimé et crédibilisé leur projet. Aujourd'hui, c'est un club qui est revenu de beaucoup plus bas, en plus que le RC Lens, et qui aujourd'hui fait figure de club solide en Ligue 1. Donc, je pense que ça fait partie les ambitions sportives. À quoi bon se mettre dans le sport si c'est pour se dire ouais, c'est peut-être dangereux d'aller voir trop haut. Évidemment, il faut des étapes et faut faire attention, pas se brûler les ailes. Maintenant, aller aujourd'hui en conférence League, par exemple, en conférence Europa League ou en Ligue Europa, est-ce que c'est trop haut pour le RC Lens? Moi, j'en sais rien. Je vois une équipe qui depuis deux ans regarde Monaco, Lyon, Lille ou d'autres équipes dans les yeux à chaque fois qu'il les joue quasiment. Je pense que ce club, ça fait 15 ans qu'il bouffe pas que des trucs sympas et il a besoin aujourd'hui de le crédibiliser par quelque chose. Ça aurait pu être la Coupe de France, par exemple, où malheureusement, cette équipe elle a été éliminée contre Monaco alors qu'il y avait l'ouverture peut-être d'au moins aller en finale et donc de créer ce truc-là. Je pense que cet effectif-là, en tout cas, mérite cette qui mérite de finir sur une bonne note. L'année dernière, ça s'était joué, on l'a déjà dit, à un poteau, parce que si Seko Fofana marque contre Monaco, Lens est européen. Est-ce que ça aurait été trop tôt? Je ne sais pas. Maintenant, bien sûr que c'est une étape importante. Normalement, elle était prévue dans le plan de départ au bout de 3 ans en Ligue 1. L'idée, c'était l'année prochaine de jouer d'aller chercher l'Europe. C'était le plan préalable exposé par les dirigeants, c'est-à-dire 2 ans de maintien et puis après essayer d'aller voir plus haut. Et ben là, il y a la possibilité. Lens n'est qu'à 4 points de Strasbourg. On a l'impression que Strasbourg est beaucoup plus solide à l'idée d'aller en Coupe d'Europe, mais moi je suis pas sûr non plus, donc on verra. Mais je comprendrai jamais, moi, qu'on puisse se dire de se limiter dans des ambitions. Le train il passe pas tous les ans, et là depuis 2008, depuis 2007-2008, le train n'est plus passé, le train européen n'est plus passé par Bollaert. Moi j'ai très envie de le revoir, voilà.
Mais je dis pas forcément que les joueurs vont se limitent ou qu'ils ne veulent pas l'arracher. Je dis simplement qu'en termes de gestion de la saison prochaine, est-ce que ce serait pas plus compliqué? On l'a vu quand même, hein, les Lensois ont eu un gros trou cette saison-là physique. On les voyait quand même beaucoup moins bien physiquement. Je me dis que si tu enchaînes avec 2 matchs par semaine, ça peut être catastrophique à un moment donné, non?
Encore une fois, je pense que si Coupe d'Europe il y aura forcément un recrutement sensiblement prêt, en tout cas à évidemment que c'est une compétition de plus. Mais bon, alors moi on me dit ouais, on arrête la Coupe de la Ligue parce que ça fait des matchs. La Coupe de France, faut faire jouer l'équipe à prime parce que bah il faut réserver les mecs. Autant il y a des choses à changer dans le foot, et effectivement, par exemple, mettre une Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est assez questionnant quand on aime le football. Évidemment, les joueurs ont besoin de se reposer. Pour moi, jouer la Coupe d'Europe, ça semble, enfin, quand on a un club comme Lens, fatalement, à un moment, il va falloir y penser parce que c'est le moment, parce qu'il y a une dynamique positive et que pour moi, ça crédibiliserait encore plus le projet qui est en train de se mettre en place et qui se met gentiment en place et plutôt bien depuis jusque-là. Donc attention aussi au coup de frein, simplement, parce que si ça venait pas arriver, qui dit que l'année prochaine, ce serait de toute façon pas compliqué, Coupe d'Europe ou pas, et retomber dans une forme de, pas d'anonymat, parce que là, ce sera rarement dans l'anonymat, mais en tout cas, dans des années un peu plus compliquées. Donc il faut profiter de la bonne vibe, voilà, simplement, pour moi.
Ouais. Toi qui es joueur de foot, Anthony, tu penses quoi de ce débat? Tu crois que c'est quoi qu'il arrive, c'est une bonne chose de se qualifier en Coupe d'Europe pour le Racing, ou alors il faut quand même faire attention à la gestion pour l'année prochaine?
Non, bah moi je rejoins Guillaume et je vous rejoins tous à peu près. C'est, il faut pas faire la fine bouche là. Le club a eu des années quand même compliquées. Depuis 2 ans, le travail qui a été fait, que ce soit par le staff, la direction, les joueurs, on a remis le RC Lens sur la carte de France, et ça serait bien de la remettre sur la carte de l'Europe. Voilà, ouais. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu cet engouement, je pense, autour du club. Donc ouais, pour moi, en tout cas, j'espérais vraiment, peu importe la coupe, qu'on aille à Bakou ou n'importe où, de jouer une Coupe d'Europe, c'est sympa. Après, ouais, il y a d'autres paramètres qui entrent en compte.
Bakou, c'est au hasard, j'imagine. Hein.
C'est au hasard. Mais si c'est pour la jouer, comme certains clubs français les dernières années, là, qui te tuent l'indice UEFA, faut la jouer, quoi. Et puis, ouais. De toute manière, si le club se qualifie, au vu des valeurs et de ce que Lens a toujours dégagé, je sais qu'ils la joueront. Donc, moi, en tout cas, perso, j'aimerais bien.
Ouais. Et puis ça peut être malgré tout, hein, en tout cas, hein, comme tu le disais à Maury, intéressant malgré tout aussi en termes de revenus de droits télé européens, parce qu'il me semble en plus que ça va être redéfini ces histoires de droits télé, Guillaume, c'est pas ça?
Alors effectivement, il y a eu, je pense que tout le monde a entendu parler, il y a eu l'accord CVC, donc le fonds Capital Partner, fonds luxembourgeois, et puis la société commerciale qui a été créée donc pour la LFP. Donc c'est un fonds qui investit, enfin qui met 1,5 milliard d'euros sur la table pour récupérer 13% de cette future société. Ils vont se rémunérer par des dividendes, et puis après ils vont spéculer en fait sur la valeur des recettes des droits TV1 de la Ligue 1. Et donc cette somme de 1,5 milliard qui va être versée en 3 fois, il y a un accord qui a été trouvé entre les différents clubs pour se répartir cette somme. Donc sur le PSG, sur les 1,5 milliard, il y a 100 millions qui sont mis dans un fonds de réserve. Après, il y a encore 100 millions qui sont mis pour le frais de fonctionnement de cette société, et 170 millions d'euros pour rembourser les prêts garantis par l'État qui avait été pris au niveau de la LFP. Donc ensuite, après, les clubs remboursent directement à l'AFP, mais c'est l'AFP qui était le garant du, de ces prêts. Et donc, ben, y a un accord qui est tombé ce week-end. Donc le PSG, il prendra 200 millions. Lyon et Marseille, ils prennent 90 millions. Ensuite, y a un, ça s'appelle un club Europe. Donc Lyon-Marseille font partie avec Nice, Nice, Rennes, Lille et Monaco qui prennent 80 millions. Et enfin, les 13 autres clubs, donc, dont Lens fait partie, ne prendront que 33 millions. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en plus, les versements, ils vont être étalés en 3 ans. Donc en 2022, là, cet été, tous les clubs vont avoir la même somme, 16,5 millions. En 2023, tous les clubs, en tout cas les 13 clubs dont Lens fait partie, auront encore 16,5. Donc on aura touché nos 33, ce sera terminé. En 2023, donc Lyon, Marseille, Rennes, Lille, Monaco, Paris, ils vont toucher une partie encore de cette somme. Mais l'écart ne va pas vraiment se faire. Par contre, en 2024, nous, on ne touchera plus rien, les 13 clubs. Et par contre, Paris va prendre 150 millions, Lille, Marseille, etc. Ils vont prendre à peu près 45-50 millions en 2024. Ça veut dire que l'écart, il ne se fait pas tout de suite. En 2022, tout le monde a le même moyen. En 2023, l'écart, il commence à se faire, mais pas grand-chose. Par contre, en 2024, il va y avoir un énorme écart de compétitivité entre tous les clubs. Ça veut dire que, pour en venir au débat sur l'Europe, la compétitivité en 2024, quand nous, enfin, les 13 clubs, n'auront plus d'argent de la LF, sur cette semaine de 1,5 milliard, ces 6-7 clubs qu'on a évoqués, eux, ils vont avoir des grosses sommes qui vont tomber. Et effectivement, il y a un écart qui peut se créer aussi à ce moment-là en 2024. Donc je pense que c'est aussi un élément à prendre en compte. Et peut-être que par rapport au projet du club qui était peut-être de temporiser ou d'avoir une vision un peu plus moyen
Au
terme,
long terme,
il y a peut-être une. Enfin, c'est peut-être un booster aussi, c'est peut-être se dire, il y a peut-être un wagon à accrocher parce qu'après en 2024, il y a un écart qui peut se faire financier et c'est peut-être le moment aussi d'essayer de, bah, par toujours ce cercle vertueux de résultats sportifs, bah, du coup après ça, de valeur marchande des joueurs, de compétition européenne, etc. Il y a peut-être un virage qu'il faut prendre et il ne faut peut-être pas attendre que le terrain passe, comme on disait tout à l'heure, et que du coup, ce soit beaucoup plus difficile ensuite par rapport à bah, cette répartition de ses revenus. De retrouver un peu une place, même si voilà, le sportif, ce n'est pas que de l'argent, mais à moyen terme, à long terme, l'argent amène malheureusement, enfin malheureusement en tout cas, amène les résultats. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut bien prendre en compte si dans ce débat, je pense.
Et cette répartition rapidement hein, pour avoir votre avis parce que bon bah Lens malgré tout 33 millions d'euros c'est pas mal hein, pour le Racing mais c'est vrai que cette disparité hein, entre les 5 ou 6 clubs devant nous à Mori tu trouves ça logique?
Non, mais en même temps, c'est la suite logique de l'histoire qui est en train, enfin, la route qui est en train de prendre le foot depuis 1 ou 2 ans avec l'histoire de Super League, etc. On est sur une hyper modernisation du foot. Il y a clairement deux vitesses dans le foot et c'est la suite logique. Alors, forcément, qu'on n'est pas d'accord et je pense que tous ici, on est d'accord pour dire que c'est pas le foot qu'on aime et que la monnaie prend beaucoup d'importance dans nos sports préférés. Mais c'est une suite logique et je suis presque fataliste par rapport à ce sujet-là.
Moi, je voudrais juste dire
Ouais,
quelque chose
vas-y,
en
Greg,
latin.
hein, je te donne la parole, vas-y.
Amaury disait que c'est ce qui le foot d'aujourd'hui, mais moi, je voudrais rappeler simplement que Gervais Martel, à la fin des années 90, avait milité pour ce qu'on appelait le Club Europe, qui était sensiblement la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait notamment un tournoi en début de saison qui s'appelait le tournoi Club Europe, et qui résuit en gros, qui faisait que les équipes qui jouaient la Coupe d'Europe, les équipes françaises, et là, on jouait la Coupe d'Europe tous les ans, faisaient partie de cette élite Club Europe, et ils militaient déjà pour une forme de même si les sommes n'étaient pas les mêmes pour que les répartitions, notamment des droits de télé, soient. Il y avait le Club Europe et le reste, histoire de créer déjà aussi une forme de fossé. Évidemment, il était dans la défense de son club à l'époque, qui était un club qui comptait en Ligue 1. Et bien sûr, après, quand il était en Ligue 2, bah, évidemment, il avait notamment un autre discours, mais ça, c'est tout à fait logique. Tous les dirigeants font ça, c'est pas pour cibler forcément Gervais, mais pour dire que cette volonté, en tout cas, d'élite au sein de l'élite, elle date finalement pas d'hier, quoi.
Et sur le sujet plus près, ouais, quelqu'un veut
Pour
réagir,
compléter
Guillaume?
justement sur le rapport avec l'Europe, c'est que bon, CVC il fait le pari d'augmenter la valeur de la Ligue 1, donc des droits, etc. Et notamment pas les droits domestiques, parce que les droits domestiques, on est à 650-700 millions. Ok, il y avait Mediapro qui avait fait une offre hors marché, mais on sait que le marché domestique il dépassera, il n'y a pas une énorme potentiel de croissance. Par contre, ils font le pari qu'à l'international, notamment avec bah, le PSG et ses stars, ils arrivent à développer le business. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que le montant des droits TV internationaux, lui, ne sera réparti qu'au coefficient UEFA. Donc ça veut dire que les clubs qui feront des bons parcours en Coupe d'Europe, si ce gâteau des droits TV internationaux augmente, le critère de répartition sera différent des critères, on va dire, de l'argent qui tombe sur le marché domestique, hein, les 700 000 qui, eux, sont une part fixe, une part variable au résultat et une part à la notoriété. Et bien, il y aura aussi le critère de coefficient UEFA, donc un peu toujours cette logique de Club Europe. Et donc, c'est aussi pour pousser un peu les clubs français aussi à défendre le coefficient UEFA, parce que derrière, en leur promettant, du coup, une part de ces droits TV internationaux de la Ligue 1 répartis, du coup, par rapport à ce coefficient. Donc, c'est aussi, bah, nous, si on veut aussi récupérer un peu d'argent sur les droits TV
ouais.
internationaux, donc sur la partie coefficient UEFA, bah, il faudrait peut-être qu'on commence à se recréer un coefficient UEFA.
Ouais, et puis à gagner les matchs, parce que on prend l'exemple de Lyon qui a été européen très longtemps. Je pense qu'ils rendent le budget à pas mal de clubs par qui, enfin Lyon et d'autres, hein, on se fait bouger par le Slavia Prague et compagnie quand même en Europe depuis un petit moment. Donc le budget serait bien, mais c'est aussi l'état d'esprit et
non, mais
la volonté qu'on met à gagner les matchs en Europe, quoi.
Moi, je suis pas l'avocat de CVC. Hein.
J'explique. Non, c'est ce qu'on disait Anthony tout à l'heure, c'est se qualifier pour l'Europe, c'est bien. Et après, qu'est-ce qu'on y fait quand on y est, quoi. Ouais.
Non, non, mais c'est un bon argument en tout cas, hein, pour la qualif en Europe. Et on n'a pas de doute sur le fait que si le Racing a la chance de se qualifier en Europe, en tout cas le jour à fond et que l'engouement autour du club sera tel que les joueurs, en tout cas, j'imagine, ne feront pas la fine bouche et se donneront à fond sur cette Coupe d'Europe. Potentiel, hein, parce qu'on n'y est pas encore et qu'il y a encore énormément de matchs à jouer, et notamment quasiment tous les concurrents directs, hein, Nice, Strasbourg, qu'on va affronter, Monaco également, le Paris Saint-Germain, alors que pas un concurrent, mais en tout cas qui joue l'Europe également. Donc c'est pas fait, hein, pour le Racing, mais voilà, le débat est quand même été à poser, parce que
pour conclure, Valentin, je te coupe, mais est-ce qu'on pourrait dire que si on est, vu le calendrier qui nous attend, si on est capable de gagner les 6 matchs, enfin de se qualifier alors qu'on a les 6 prétendants européens, si on se qualifie, c'est qu'on l'aura mérité en fait.
Oui, donc, clairement. Et que
le calendrier, il est hyper chargé, quoi.
Ouais, et que le Racing est capable de, en tout cas, de se frotter à des clubs assez huppés et donc fera pas forcément pas le figure en Coupe d'Europe la saison prochaine. Merci pour ce débat, messieurs. On va passer au quiz, hein, si vous le voulez bien, le quiz de la mi-temps de Culture Senior. Et c'est un quiz spécial que je vais laisser choisir notre invité Anthony Rogy, puisque j'ai deux propositions de quiz. J'en ai prévu deux. Et c'est Anthony qui va choisir lequel on fait. Alors, je vous propose un quiz. En tout cas, c'est un quiz spécial Coach Chico, parce que les deux compos que je vais vous proposer, c'est des compos de Captain Sikora, qui était entraîneur du Racing Club de Lens. Alors, on a le choix entre la compo du Racing Club de Lens lors du premier match titulaire en pro avec le Racing pour Anthony Rogy. C'était le 5 octobre 2012 contre Niort, au stade Bollaert. Ou alors on a la compo du Racing Club de Lens pour le retour à Bollaert avec QRM et Jean Intoclaus d'Anthony Rogy. C'était le 18 septembre 2017 avec une victoire du Racing 2-0. Allez Anthony, je te laisse.
Fais pas le con, Anthony. Grosse pression.
Ah là, j'ai la pression. J'ai l'impression parce que les deux, je vais quand même dire
2008,
je vais choisir. Allez, je vais choisir Lens pour que tout le monde puisse jouer, mais ça va être dur.
Lequel alors, du coup, le dernier?
Non, mon premier match.
Mon premier match.
Mon premier match. On fallait pas trouver la composition de Quevilly en 2017, hein, parce que
moi, non, c'était la composition aussi du Racing. Mais quand ils ont affronté QRM, du coup.
Oh là là,
mais allez, on part sur le premier match titulaire d'Anthony Rogy avec le Racing Club de Lens. Nous sommes le 5 octobre 2012. Le Racing affronte Niort au stade Bollaert. Je vais vous demander, chacun à votre tour, de me donner un joueur qui composait la composition
titulaire.
Des titulaires, les 11 premiers joueurs titulaires du Racing Club de Lens. Et on commence avec toi, Anthony.
Sambasso. Oh,
Sambasso était titulaire. Bravo, Anthony, c'est bon. On va passer à Amaury.
Ryu.
Rudy Ryu, c'est bon. Guillaume.
Ben, Camille Legrand. Anthony Rogy, pardon.
Anthony Rogy, c'est bon. Eh oui.
J'avais zéro prise de risque à chaque fois. Ben, moi, je vais prendre le mec que je mets toujours dans ces années-là. Et j'ai Mathieu Andemont.
Et Johan Desmonts, c'est bon, il était titulaire également. On repasse à toi, Anthony.
Pierre Ducasse.
Pierre Ducasse, titulaire, bien joué.
Oh, ça sent la victoire de l'invité, je sais pas pourquoi.
Yaya.
Aladine Yaya, c'est bon, titulaire également. Guillaume.
Je dirais, bah, c'est le buteur, David Paulet.
David Paulet, titulaire, bien joué. Greg. Ouais, du level là. Hein.
Ouais, là, c'est pas mal. Johan Tousgard.
Yann Tousgard, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Anthony, on repasse à toi.
Il en reste combien là?
Ah, il en reste 3.
On est pas mal quand même. Hein.
On va devoir faire le deuxième hein, si jamais.
À gauche, est-ce que c'était 2011? Je suis pas sûr. Berdy?
Ouais, c'est bon. Jacques à la Belgique. Bien joué, Anthony. Amaury.
Je l'avais, merde.
De toute façon, je vais dire Ludovic Ball, donc au moins, c'était pas ça. Valdivia.
C'est faux. Ouais. Tu as éliminé mon cher Amaury.
Ça faisait beaucoup mieux défensif, sinon.
Bah ouais, c'est ça, mais c'est le seul que j'avais à peu près dans les...
On passe à toi, Guillaume. Vas-y.
Je me demande si en charnière, c'était pas du coup Coef avec Yaya, non?
C'est bon, Coef. Ouais, Alexandre Coef, c'est bon.
Ouais, bah, ouais, j'allais dire Coef et Berdych. Il en reste un,
hein? Il en reste un, Greg. Pour...
Attends, cette année-là, il y avait qui oh, il y avait du... Mais tu peux pas me donner le poste alors.
Je peux rien me donner. Bah, y a... non, attends.
Et bah alors je vais dire. Alors je vais dire. Bah non, ça ferait beaucoup quand même. Jérôme Lemoyne quand même. Pff, ah bah Ludovic Ball alors. Allez.
Non, pas de Ludovic Ball, Greg. Ouais. Lannemont, tu es éliminé. Anthony, si tu as le dernier, tu remportes le quiz Culture sans erreur.
Oh, et moi je le perds le quiz.
Ah bah parce qu'il aura donné le dernier, donc le quiz sera terminé.
Anthony, je suis derrière toi parce que je suis
le premier invité à remporter le quiz. Anthony,
ouais, c'est ce que je veux dire, c'est le premier.
Ouais.
Alors, je sais que Diakité il était rentré en jeu.
Ouais, Adama Diakité. Ouais.
Toi, tu savais qu'il était rentré en jeu, toi, Guillaume.
Ouais, tu le sais, ouais. Qui avait joué en tout cas.
Ça doit être un joueur offensif, mais lequel?
Moi, j'en ai un, mais...
Allez, je te laisse 5 secondes.
Je l'aurai pas.
Tu l'auras pas? T'es sûr? Tu veux pas réfléchir?
Ah ouais, non, je sais, je vais dire ah oui, c'est vrai, mais je l'ai pas.
Bon, attends, essaye.
Moi, je l'ai.
Franchement, t'as rien à perdre à essayer.
Hey, tu peux me filer ton truc, je l'ai.
Non, c'est Guillaume qui aura la main, quoi qu'il arrive.
Mais oui, bien sûr. Et Guillaume, t'as le droit de répondre avant l'an Strasbourg.
Tu l'as pas?
Avant Strasbourg.
Attends, Guillaume, est-ce que tu l'as, toi?
Bah, un offensif là comme ça, cette année-là, je dirais bien ailier gauche, la line.
Ouais, c'est bon, la line à Nomen Janari. Bravo Guillaume, sur le fil, tu remportes le quiz.
Putain, j'allais dire Jérémy Bellum, mais non,
c'est pas ça. Sans erreur, ça s'est joué à ça pour toi, Anthony.
Bien joué, ce qui est dingue, c'est que j'ai été dans sa chambre.
Bravo en tout cas.
Bravo Guillaume, bravo Anthony. Dans le chat, on a Mathieu Lamoury qui nous dit « Greg mis en difficulté, quel plaisir !» Voilà.
Je suis.
C'est comme quand l'Allemagne perd en poule en Coupe du Monde, on s'y attend pas. Bah voilà, c'est la même chose pour moi.
Bon, allez, bravo Guillaume. On va passer à la deuxième partie de l'émission, si vous le voulez bien, messieurs. Et on va s'intéresser à toi, Anthony. Hein. Anthony Rogic est notre invité, formé au Racing, ancien joueur de la réserve. Et puis des pros également. Hein. Tu as 5 matchs, il me semble, avec les pros t'es notre invité dans Culture sans ailleurs. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de l'émission, hein, sur YouTube, sur Facebook, pour eh bien, des questions que je pourrais moi relayer à Anthony Rogy, qui est notre invité. Déjà, première question, bah, tout simplement, comment vas-tu et comment se passe ta saison avec Sedan? Vous êtes 9e de N1, il me semble.
Ouais, bon, ça se passe très bien. Moi, j'ai rejoint le club l'été dernier. J'ai eu le coach au téléphone, le feeling, il est immédiatement passé. Et puis, bah, je regrette pas parce que j'ai retrouvé un peu dans ce club les valeurs du Racing, toute proportion gardée. Donc, bah, voilà, je suis content. Je suis là avec ma femme et mon fils et on se plaît dans la région.
Ouais.
Après, par rapport à notre équipe, on est monté administrativement. Donc,
c'était pas prévu en fait.
C'était pas prévu. C'est vrai que la saison, elle est compliquée parce que c'est quand même un autre niveau. Les déplacements, c'est plus compliqué. Il y a plein de paramètres qui entrent en compte, mais il y a de la qualité et je trouve que pour faire cette transition, puis surtout stabiliser le club, on fait une belle saison. Après, dernièrement, les résultats. C'est moyen, que ce soit dans le contenu ou sur le plan comptable, on n'est pas bon depuis 3-4 matchs. Mais sinon, en général, ça se passe bien. Puis que ce soit la direction, le staff, les joueurs et le club en général. Tout le monde est content quand même d'avoir remis Sedan sur de bons rails. Maintenant, il reste 7 matchs là et bon, il faut qu'on sorte un peu de cette spirale négative parce que c'est toujours plus intéressant de jouer une fin de saison dans la première partie de tableau
Ouais.
que dans la charrette.
Bah pour une saison, en tout cas, vous n'étiez pas prévu de monter 9e de N1, malgré tout, c'est pas si mal. Alors, j'ai une stat, je sais que le foot reste un sport collectif malgré tout, mais j'ai trouvé une stat. Le ratio de victoire ou de défaite en fonction de ta présence sur le terrain. Sedan, en ta présence, remporte 44% de victoire pour 17% de défaite. Et en ton absence, 25% de victoire, 42% de défaite. Voilà, j'ai trouvé ça. T'en fais ce que tu veux, t'es dirigeants en France qui veulent.
Il va falloir coach. Hein.
Non, c'est des chiffres, ça, c'est
C'est des
anecdotique.
chiffres, ouais. J'avais quand même envie de te les
En
donner.
tout cas, moi, je suis à 100% de défaite face à Anthony Rogy au quiz Culture Soccer. Hein, donc, quand même, à un moment donné, il n'y a pas de hasard. Hein.
Il n'y a pas de hasard. Bon, t'arrives très jeune hein, au Racing
Ouais.
Club de Lens. T'es un enfant de la région de toute façon. Tes premières années de formation, quel souvenir t'en gardes de toi de la Gaillette? C'était la Gaillette déjà. Hein. Ouais.
Non, moi je suis arrivé, c'était le centre, il était encore à côté de Léo Lagrange.
Ouais.
Donc, bon, je suis arrivé tout petit, j'avais 8-9 ans, un truc comme ça. Je suis arrivé. Gaël et moi, on est arrivé le même jour. On
Quelques temps,
s'entraînait
ouais.
la première fois ensemble, donc. Ouais, après les souvenirs, je les aurais plus à la Gaillette, forcément. Donc, il y a eu le CRAF qui a marqué quand même une petite période de mon adolescence. Et puis après, la Gaillette, c'était magnifique.
Ouais. Et du coup, quel souvenir tu gardes de ces années lensoises, que ce soit la formation, de la réserve, tes quelques matchs en pro, ça peut être des joueurs, ça peut être une relation particulière avec un coach, ça peut être voilà, des amitiés que t'as gardées, peut-être.
Bah ouais, moi j'étais, par exemple, j'étais en chambre avec Kevin Boly, toute ma formation, enfin toute ma formation au CRAF et au centre, et Kev c'est devenu mon témoin de mariage.
Ouais.
Donc ouais. Après le centre, franchement, c'était la folie. Hein. C'était une autre époque. Là, je pense que c'est un peu différent aujourd'hui, mais moi quand j'y étais, en tout cas, quand on y était, c'était la période d'or du Racing, c'est l'amphithéâtre, j'ai plein de souvenirs de matchs de Ligue des Champions, j'ai des souvenirs en salle info avec Adel Taarabe, j'ai des souvenirs avec tout le monde en fait, c'était top, c'était génial, même aller en cours, franchement, on se levait le matin, on allait au lycée, on était content d'y aller parce qu'on savait que ça allait, on était tous dans la même classe, franchement, c'était le top.
Ouais.
Le top, puis aussi les formateurs. Franchement, c'était costaud. Pour moi, Assad, c'est le meilleur coach que j'ai eu. Le meilleur formateur, en tout cas.
Ouais.
Je trouvais, encore aujourd'hui, j'ai des choses quand je suis sur le terrain qui me reviennent parce qu'il me les a dit il y a 15 ans. Je le trouvais exceptionnel et le fait qu'il soit revenu au club, bah, je trouve ça terrible pour les plus jeunes parce qu'ils vont apprendre.
Et tu as des souvenirs avec des joueurs qui aujourd'hui ont un peu plus percé au niveau. Je pense à des Varane, notamment des Kondogbia, des joueurs comme ça. Bon, Gaël, tu nous en as parlé, hein, mais tu as des
Bah,
souvenirs.
à part Raph, franchement, je suis en contact avec tous. Hein.
Ouais.
Avec Jo, avec Serge, avec Gaël.
Serge Aurier aussi, ouais.
Ouais. Puis après, les souvenirs, il y a eu le titre de champion de France. Il y a eu. Après, c'est beaucoup les conneries. Hein, tu sais, quand tu es au centre.
Ah justement, tu peux y aller. Hein, on est entre nous là. Il y a des anecdotes. Je suis sûr qu'il y a des trucs.
Bah ouais, quand tu es au centre, tu sais. Il y a le petit carrefour à Avion qui est pas loin. Je crois qu'il a changé d'ailleurs. Ou c'est champion, ou bon, bref. Et bah, tu allais faire les courses. C'était la mission pour pas se faire. Donc tu prenais ton sac à dos, tu achetais tes barres chocolatées, tes patinoises.
Parce que c'était
Fallait
interdit du coup.
pas trop cher. Bah ouais, si tu rentrais au centre avec ça, tu étais grillé. C'était JB à l'époque, Blanchard qui était à la formation. Et on s'est fait griller plus d'une fois. Voilà, les pots de Nutella le matin. Non, mais c'est la vie en communauté, ça soude, ça rapproche. Après, en fin de saison, c'est toujours compliqué. Moi, quand Kev il est parti, c'était à 16 ans, je crois, du centre Boli. il pleurait dans mes bras parce que le club ne le gardait pas. Donc ça forge aussi des amitiés. Voilà, je suis resté proche de lui, de Bilal, très proche, Hamdi, Adama Diakité, William Rémy, toute cette clique-là là, de 91, on était soudés dans la bêtise comme sur le terrain. Et bah, je vais te ressortir une connerie. Quand on était, bon là c'est un peu plus jeune, on était au CRAF, tu vois, on allait, t'avais 200 mètres pour aller au collège, donc c'était en 3e ou 4e, sauf t'avais les cancres, Gaël et compagnie qui avaient redoublé. Et on était tous devant le collège, et tu sais, c'était le premier qui rentre, tu vois, truc de gamin, sauf qu'il n'y a personne qui rentrait. Donc c'est Bilal et William, ils se sont fait virer, alors que c'est moi qui avais balancé le truc, tu vois. Bon, c'est des trucs de gosse, tu vois, on en rigole aujourd'hui, mais c'était une période franchement terrible. Humainement, ouais. En tout cas, c'était le top.
Justement, moi j'ai juste une question.
Ouais, vas-y Greg, ouais, pas de problème.
Parce que quand on est jeune comme ça, quoi, alors toi tu étais de la région, Gaël aussi, voilà. L'éloignement familial, on oublie souvent d'en parler quand même, parce que c'est ce qui crée aussi une forme de, voilà, de vie en communauté. Vous vous soudez encore plus parce que vous n'avez pas ces repères forcément tous les jours. Est-ce que c'est facile à vivre? Est-ce que tu as vu des gamins aussi le vivre très difficilement, ça, cet éloignement parental, etc.?
Ouais. Ben moi, c'est vrai que par rapport à mon cas, moi, j'ai quitté du coup le cocon familial quand j'avais 13 ans, quand je suis rentré au CRAF, même si je rentrais le week-end, toute la semaine, bah, j'étais aux 12 ans même, j'étais au CRAF. Et il y en a pour qui, ouais, c'était plus dur. J'ai souvenir d'un joueur, Andreas Kifano, un Belge, qui était là au centre. Même Pierre-Baptiste Baerlé, qui après a fait une petite carrière à Boulogne. Pour eux, c'était compliqué et ils ont arrêté à cause de ça. Ils ont quitté le club à cause de ça parce que c'était dur d'être loin. Voilà. Après, j'ai envie de dire, faut quand même très jeune, être dans la tête, être prêt. C'est avec le recul, c'est facile à dire. Mais il y a des moments où c'est vrai que c'est pas évident. T'as beau être entre potes et tout. Des moments tu vas t'isoler parce que c'est dur d'allier un peu les cours, le foot, puis l'éloignement. Donc il y a des sacrifices pour au final, bah, c'est extraordinaire de vivre du football, hein, parce que c'est une passion et un jeu. Moi, en tout cas, on peut dire que c'est un métier, je le vois comme une passion et un jeu, mais ouais, ça demande pas mal de sacrifices aussi.
En tout cas, toi, tu as eu ta chance, hein, un petit peu en pro au Racing, puisque eh bien, tu as eu l'année 2012-2013 quelques matchs en professionnel sous Eric Sicora, hein, qui avait récupéré l'équipe à cette époque-là. Est-ce que tu te souviens de ton but en pro, ton seul but en pro avec le Racing?
Ouais, bah, je marque comme ça. Donc,
C'était le 8 décembre 2012, tu peux nous raconter?
Armentières. Ouais, c'était contre Armentières.
J'étais dans les tribunes.
8e tour de Coupe de France.
C'était un coup franc, puis bon, c'est un exercice que j'affectionne depuis toujours. Et bon, après, l'opposition, elle était quand même plutôt faible. C'était un match de Coupe de France. Après, chaque année, il y a des surprises, mais ouais, j'étais fier de marquer un but quand même avec mon club formateur.
T'as gardé beaucoup de maillots de cette époque-là, Anthony? Bon, là où tu les as donnés, il y a des gens qui sont fétichistes, d'autres qui ne le sont pas du tout. Hein.
Non, ouais, j'ai gardé les miens quand même. Mes premiers matchs en pro, je crois que j'avais le 36, il est ici. C'était un banc contre Montpellier en Ligue 1. J'ai mon maillot, mais je n'étais pas rentré. Et puis l'année où j'ai joué, où j'ai eu mon numéro, mon premier numéro officiel, le 21, bravo, j'ai gardé quelques maillots quand même.
Ouais, c'était lors d'une victoire 6-0 en tout cas, hein, en Coupe de France à Armentières, coup franc direct. J'ai failli d'ailleurs vous faire cette équipe dans le quiz, mais je me suis dit que c'était vraiment très très dur parce qu'il y avait des Firas, Mugrabi et compagnie.
Ouais, c'est ça.
Il fallait être plutôt calé sur le coup sur ce match. Et puis tu rejoins la saison suivante Quevilly, qui n'était pas encore QRM, il me semble. À l'époque, en 2013-2014, il me semble qu'ils étaient en CF1. C'est un club qui avait fait parler de lui en Coupe de France en ayant battu l'OM, notamment 3-2 cette année-là. Et puis, vous enchaînez deux montées consécutives ensuite, hein, de national en national d'abord en 2015-2016 et puis en Ligue 2 en 2016-2017. Déjà, c'est quelque chose de pas courant. malgré tout, de monter deux fois de suite. Vous marchez sur l'eau à l'époque?
Ouais, il y avait une belle équipe. Ouais. Il y avait une très belle équipe, ouais. Déjà, quand je suis arrivé, quand j'ai signé à Quevilly, moi, à ce moment-là, c'est Antoine Siberski qui est directeur sportif au Racing.
Ouais.
Et on s'entend sur une prolongation de 2 ans.
Ouais.
Donc moi, je suis entre guillemets voué à rester au Racing. Sauf que bah voilà, j'avais fait quelques matchs, j'avais 21 ans, puis j'aspirais quand même à découvrir un niveau un peu plus élevé que celui du CFA à l'époque.
Ouais.
Donc j'étais en contact avec certains clubs de Ligue 2 et d'un commun accord, je l'ai refusé cette proposition. Je me suis dit que voilà, fallait parfois être audacieux, puis les contacts étaient quand même bien présents. Donc voilà, puis sur la fin de saison, sur un match à Bollard contre Amnéville, je me fais une pubalgie aller dans la foulée quoi, de 3-4 semaines de mon refus de prolongation. Et c'est vrai que ça a refroidi pas mal de clubs. J'étais en contact après, il y a pas mal de clubs de national qui m'ont appelé, mais bon, c'est toujours la même chose, un joueur blessé ça fait peur, surtout une pubalgie. Et puis un jour, je suis chez mes parents dans leur jardin et j'ai le coach de Manu da Costa de Quevilly qui m'appelle. Et moi, marchant à l'affectif, voilà, je lui dis coach, voilà, c'est vrai que j'aspire à jouer un peu plus haut quand même, mais voilà, aujourd'hui ma situation fait que c'est compliqué. Puis il me dit, moi, si je dois t'attendre 6 mois, si je dois t'attendre 1 an, je t'attendrai. Donc, tu signes. Et si tu reprends même l'année prochaine, j'attendrai. Donc, il m'a dit ce que je voulais entendre. Et puis, il m'a dit de lui faire confiance. Et j'ai eu raison de le faire, puisqu'après, j'ai connu quelques beaux parcours en Coupe de France. Et puis, les montées successives de CFA en National et de National en Ligue 2. Puis du coup, oui, c'est vrai, pour rebondir, que... Sur ce que tu as dit, on avait une équipe vraiment, c'était très costaud. En fait, il y a eu l'arrivée d'un joueur, c'est Stan Oliveira, qui a joué à Sedan d'ailleurs, qui a complètement métamorphosé l'équipe. Un milieu de terrain, un 6, mais qui pue le foot, c'est un top joueur, vraiment top, top joueur. Et à la trêve, je crois, quand on monte de CFA en National, on est 8e, et il reste 13 journées, on fait 11 victoires de nul. Et on est monté, voilà. Puis après, on a surfé sur la dynamique. On a fait 1 ou 2 ajustements. Il y avait Mehdi Guézu aussi, cette année-là, qui
ouais.
était dans l'eau. Et puis, voilà, on a découvert la Ligue 2. Puis après, c'était un peu plus compliqué parce que le club, qui n'avait jamais connu ce niveau-là, ni le national d'ailleurs, il y a eu trop de changements d'un coup. Une quinzaine d'arrivées, je crois. Donc, tout a été chamboulé et c'est ce qui a rendu la saison compliquée, parce que je pense qu'avec ce groupe qu'on avait en national, très objectivement, je pense qu'on se maintenait cette année-là.
Tu parles de la Ligue 2, hein, j'attrape ça au vol, hein, puisque donc du coup, lors de la saison 2017-2018, QRM est en Ligue 2, et le club recrute alors beaucoup de joueurs, comme tu le dis, et notamment une personne venue de l'US Avranches, un intégral. Est-ce que tu vois de qui je parle ?
Très bien.
Je vais bien sûr parler de Jonathan Klaus, qui arrive à QRM cette saison-là. D'ailleurs, vous jouez tous les deux, hein, titulaires à Bollard lors de ce match face au Racing et la première victoire du Racing. Hein, le Racing qui était vraiment plus que dans cet hôpital.
Cette défaite, pardon.
Et le but de Mazou.
But de Bellegarde et de Mazou. Mais pour revenir à Jonathan Klaus, tu te souviens de son arrivée, de ses premiers moments avec lui? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt très bon ami, mais à cette époque-là, tu te souviens, hein,
Franchement, de souvenirs que j'ai, quand je le regarde à travers ses interviews ou quand on échange, il n'y a rien qui a changé. Et puis voilà, c'est quelqu'un de, je pense que vous le connaissez un petit peu maintenant, de très terre à terre, voilà, de simple. Nous, quand il est arrivé à QRM, il sortait d'une saison à Branche où il avait fait un peu parler de lui grâce à son but en Coupe de France.
Coupe de France, ouais.
Et puis très vite, on a senti que c'est un footballeur, quoi. Ça pue le foot, c'est généreux. Puis au-delà du footballeur, en fait, là où il a fait l'unanimité, c'est sur l'homme. Parce qu'il était dans la mentalité déconneur, parfois un peu trop. Et c'est ce qui pouvait peut-être lui porter préjudice à cette époque. Voilà, Joe, c'est arrivé, on était sur le terrain en train de s'entraîner depuis 20 minutes. On le voit arriver à 100 à l'heure à la ferme à Diochon parce qu'il a oublié de mettre son réveil. C'est arrivé quelques fois, ça. Donc le coach, tu rentres chez toi. Et je pense que c'est ça aussi qui. Enfin, aujourd'hui, ça a changé. Je pense qu'il a pris de la bouteille, il est devenu plus mature, il a compris aussi les exigences du haut niveau au Racing. Mais c'est ça aussi qui fait le charme de Joe, en fait. Là, on le voit tout émerveillé, mais je peux vous dire que si demain il a la chance d'être aligné, et je pense que ce sera le cas, il va croquer dans la pomme. Joe, il a faim.
Ouais.
Joe, il a faim. Et ce que je disais un peu tout à l'heure en off, des Jonathan Clauss, on n'a pas qu'un.
Ouais.
Dans ces divisions-là, tu as des bons joueurs qui passent à travers les mailles du filet, soit parce que ben, aujourd'hui, il faut du relationnel, aujourd'hui, il faut que
Faut un peu de chance aussi.
mon agent, ils connaissent peut-être certaines personnes. Voilà, ils font un peu de chance, ils font un peu de tout. Et Joe, ça n'a pas été facile, même après son année en Ligue 2. Moi, j'ai des discussions avec Joe sur WhatsApp. Moi, en sortant de QRM, je devais partir à l'étranger. Et je devais partir en Hongrie.
Ouais.
Je lui dis, Joe, dimanche, je prends l'avion. Est-ce que tu vois pour... Il me dit, ouais. Il me dit, ouais. Il me dit, ouais. Joe, c'est même en sortant de QRM, c'était compliqué. Et il y a eu, j'ai un truc, j'ai un flash comme ça qui me revient. C'est une discussion avec Manu da Costa en fin de saison, comme ça. Joe, il était très porté sur, bon, toujours aujourd'hui, mais sur l'offensive. Et dans ce système-là, évidemment que bon, ces lacunes, elles sont, parce qu'il en a encore, elles sont moins mises en évidence. Mais nous, quand on jouait à 4 derrière, il prenait le couloir, il prenait le couloir. Et c'est vrai que parfois, défensivement, surtout tactiquement, il avait des carences qu'on voit moins aujourd'hui. Et moi, j'ai cette discussion avec Manu da Costa. Joe, il est en fin de contrat à QRM, donc on descend de Ligue 2 en National. Et je lui dis, coach, je joue quand même pour le national. Et il y a le coach, l'adjoint, prépa physique, et le coach qui me dit, ouais, mais Anto, vous rigolez quand je vous parle, mais Joe, là aujourd'hui, ça va être compliqué pour lui parce que défensivement, il n'est pas prêt. Et donc, ça a hésité à refaire signer Joe. Après, bon, il était trop tard. Le coach, il me disait, rappelle-le, rappelle-le. Mais déjà en Ligue 2, bon, dans une équipe qui était programmée au maintien, tu sentais que. Voilà, ça, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, ça pue le football pour un latéral droit comme ça, c'est le joueur moderne qui ne rechigne pas à la tâche. Et puis offensivement, voilà, il a un pied droit de rêve, il est intelligent dans le jeu. Et voilà, aujourd'hui.
T'avais déjà vu ça toi à QRM à l'époque? Tu voyais ses qualités sur le terrain comme on les voit aujourd'hui nous au Racing en équipe de France?
Ouais, moi, dès le départ, de toute façon, il y a des joueurs comme ça où après, tu peux pas prédire la carrière qu'il est ou la trajectoire que sa carrière a pris. Mais il y a des choses comme ça, tu n'as pas besoin d'attendre 10 matchs ou 6 mois pour savoir que le mec, il a ce truc, tu vois, sur 2-3 entraînements, sur des taureaux, des choses toutes simples, tu vois, sur des choses banales, qui va avoir une touche ou sur des détails, sa remise, il va te la faire tout doucement pour que toi tu puisses attaquer le ballon, c'est des détails, mais que voilà, tous les joueurs n'ont pas. Et lui, il avait cette faculté de répéter les efforts. Puis, comme j'ai dit, je crois qu'il finit à 7 ou 8 passes, ou 6 ou 7 passes décisives sur sa première année en Ligue 2. Et c'était vraiment dans une équipe qui tournait pas du tout. Il aurait pu en mettre 15
Ouais.
s'il y avait eu un peu plus d'adresse. Donc, non, super joueur. Et vraiment, au-delà du joueur, moi, c'est surtout le bonhomme. Le bonhomme, il est. C'est chapeau. C'est chapeau parce que. Il n'oublie pas. Il a pas oublié d'où il venait. Et moi, comme je l'ai connu vraiment il y a 3-4 ans ou 4-5 ans, là, c'est le même.
Il n'a pas changé quoi, malgré son nouveau statut, malgré l'équipe de France, il gère ça comme il faut.
Ouais.
Ouais.
Il est bien entouré, je pense, avec sa famille.
Ouais.
Et ouais, non, moi, en tout cas, jamais de ma bouche, pourrais dire quelque chose de mauvais sur lui, à part peut-être quand il
C'est pas ce
parle
qu'on essaye, hein. C'est pas tout
de
simplement
tactique,
que tu nous parles
mais
de lui. Hein.
moi, j'adore Joe, puis même ce qu'il dégage. Voilà, là, après, dans son évolution de carrière, parce qu'elle a pris un tournant quand même, là, avec cette sélection,
Ouais.
là, il est dans un club qui lui correspond parfaitement. familiale, avec cette ferveur. Je ne sais pas si Joe a une exigence encore plus haute d'un club qui joue l'Europe régulièrement ou peut-être pas d'un cador européen, mais pourquoi pas, mais d'un club qui a, je vais donner une image, mais dans le style AS Rome, qui est quand même huppé et qui est là, au niveau de l'exigence, je pense que ça sera encore autre chose que le Racing. Et là, je demanderai à voir. Je serais curieux de voir. Moi, je ne doute pas de la qualité du football. Pour moi, c'est peut-être très gros ce que je dis, mais Joe, il a les qualités pour jouer partout. Aujourd'hui, quand je regarde les gros matchs européens, même, je ne me dis pas si Joe, il joue à sa place, il est dépassé. Quoi. Mmh. Après, il faut prendre beaucoup de recul parce qu'il n'a jamais goûté à l'Europe, mais je serais bien curieux de le voir.
En tout cas, s'il veut rester au Racing, on le garde, hein. Il n'y a pas de souci. Je vais vous passer la parole, messieurs, maintenant. Hein. Si vous voulez poser une question à Anthony Rogi, je vais commencer avec toi, Greg.
Ouais, mais justement, parce que moi, je reviens sur cette anecdote qui est dingue. C'est qu'il y a 2 ans, on en a parlé la semaine dernière, mais Anthony est là maintenant pour en parler. Mais il y a 2 ans, moi, je ne connais pas Jonathan Clauss du tout, vraiment. Je commence, comme tout le monde, à regarder un peu ses matchs de Bundesliga 2 parce que son nom a fuité, donc voilà. Et j'appelle Anthony, alors je cherche dans les mecs qu'on joue avec lui potentiellement, puis je vais appeler Anthony Rogi. Et il me dit cette phrase, alors un peu sous le ton de la blague, mais pas tant que ça, en fait, au final. Il me dit, je lui dis, mais parle-moi de l'homme et tout. Puis il me dit, mais ce qui est sûr, c'est que même quand un jour il joue au Real Madrid ou en équipe de France, il me dit ça. Hein. Il me dit, il ne changera pas. Et moi, je le prends en rigolant. Je dis, allez, on parle d'un mec qui a à l'époque 27 ans et qui a joué qu'en Ligue 2 française. Donc fatalement, moi, je me dis, mais qu'est-ce que me dit Anthony Rogi, voilà. Et il me dit, oui, mais il a appris la rigueur un peu en Allemagne. C'est plus le même. Voilà. Et donc, moi, c'est, franchement, j'ai pensé à Anthony tout de suite quand il y a eu la convocation. Je dis, mais en fait, il avait tout vu. Et Anthony, j'ai juste une question par rapport justement à cet esprit un peu bringueur, un peu Jonathan Clauss me l'a dit après, justement, quelques jours après en interview. Il disait ce qu'on fait la veille, on le paie le lendemain sur le terrain. Et j'ai appris notamment en Allemagne avec son entraîneur à Bielefeld qui multipliait les amendes et qui lui disait, mais tu es en train de passer à côté de quelque chose d'énorme. Est-ce que toi, déjà à l'époque, à Quevilly, il vous est arrivé de dire ouais, franchement, là, Joe, tu nous fais bien marrer, mais tu déconnes un peu trop et peut-être que tu es en train de mettre en péril, ou alors vous étiez juste en train de profiter du mec et du joueur en disant, bah, c'est notre pote, on s'amuse bien et il n'y a pas de raison, on n'est pas là pour lui faire la morale. Est-ce que vous étiez quand même déjà un peu protecteur par rapport à ça?
Ouais. Non, on lui disait, hein. Il y avait 2-3 cas, bon, Stan aussi, il était proche, il y avait Jordan Gobron, bon, on était une belle petite bande et ouais, Joe, il était fêtard, Joe, il aimait bien. Ah ouais, c'est un bon vivant, Joe. C'est un bon vivant et là, il n'y a pas de, hasard non plus dans le foot. Tu ne peux pas aujourd'hui être le joueur qu'il est devenu en ayant le train de vie qu'il avait quand il était chez nous, par exemple. Attention, ce n'était pas non plus
c'est pas
David Guetta, quoi, mais ouais, Joe, il aimait bien faire la fête quand même.
Ouais, t'en as une petite là, d'anecdote d'une soirée qui a pu... une soirée ou autre, hein, d'ailleurs, mais une connerie qui te revient là...
Bon, Joe, je l'ai déjà vu dans des états lamentables. Ouais, bah après, des anecdotes,
bah, te force pas. Hein.
J'ai déjà vu dégueuler, quoi.
Ah, voilà. Ouais, à qui ça n'est pas arrivé?
Quand on fait trop d'efforts physiques, hein, quand on fait trop d'allers-retours, on vomit.
C'est ça, hein. Tu parlais sur le terrain, évidemment.
Georges Best, c'était ça, hein. C'est sûr.
Sur le terrain, c'était l'une des rares satisfactions quand même cette année-là. Ouais. Sur le terrain, il était irréprochable. Après, il y a des mecs comme ça qui ont... Bon, là, c'est vraiment, c'est plus le cas, mais il y a des mecs comme ça qui ont le corps ou le physique qui peuvent se permettre un écart et qui assument sur le terrain. Et Joe, il faisait en tout cas partie de ces mecs-là. Ça veut dire, je pense que tu le payes à long terme, peut-être pas sur le match qui arrive, mais tu peux pas faire ça toutes les semaines. Mais Joe, c'est le genre de mec qui n'est pas impacté par bouffer une pizza la veille ou par sortir la veille. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui, mais ça a pu arriver à QRM. Et honnêtement, ça restait le meilleur sur le terrain.
Amaury, Guillaume, vous avez une question pour Anthony rapidement?
Guillaume, je te laisse la priorité, vas-y.
Bah, moi, j'ai posé une question à Anthony, justement. Moi, j'ai toujours été intéressé par l'histoire entre Quevilly et le FC Rouen. Parce que j'ai vu qu'après, tu étais allé au FC Rouen. Et du coup, bon, le club historique, c'est le FC Rouen. Il y a une espèce d'OPA de Quevilly à l'époque sur les couleurs, enfin sur le pour récupérer une position. Je pense à un. Comment t'as vécu de passer d'un club à l'autre? Comment s'est ressenti là-bas en Normandie cette rivalité?
Ouais, ça fait pas l'unanimité du tout. Déjà au niveau de l'ambiance pour les supporters, c'est dur de s'identifier à QRM parce que le club phare, ça reste le FC Rouen, qui traverse des jours compliqués. Le président qui est décédé il y a peu. Ouais, c'est compliqué. Quand le club il a basculé en fait de l'USQ à QRM, ça a été dur pour les supporters parce qu'il y a eu le Quevilly avant jouait à Lauzet, donc sur leur terrain petit Quevilly, il y a eu la prise du terrain et des installations du FCR. Donc là, ça a été vraiment mal perçu. Même les ambiances, même en Ligue 2, c'était compliqué. Et je pense que même si le club avait été en Ligue 1, ça l'aurait été, puisque quand on se disait en national, si on a la chance de monter, peut-être que ça va fédérer, peut-être que le club va pouvoir les gens de la région, pardon, vont pouvoir s'identifier à nous. Et c'est pas arrivé, parce que si je dis pas de bêtises, le président, Monsieur Mallet, en gros, il avait 51% des parts et 49% au FCR. Donc, je pense qu'il y avait des choses à faire pour faire un gros club, pour faire un plus gros club et s'allier avec le FCR. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et voilà, sur des détails, plutôt que de mettre QRM en tribune, sur les sièges, mettre FCR et QRM ou mettre QRM aux couleurs du FCR. C'était des choses qu'on entendait qui auraient pu être fait, mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc ouais, c'était compliqué. Puis après, moi, je suis parti au FCR à la fin de mon contrat. Bon, je devais partir à l'étranger, ça s'est pas fait. Il y a eu pas mal d'appréhension. J'ai reçu une offre sur papier. J'ai eu un visio avec un président d'un club en Turquie. Et puis bon, avec ma femme, on a un petit peu pris pas peur, mais c'était pas la période idéale à ce moment-là, notamment en Turquie.
D'accord.
Donc, bon, ma femme, elle travaillait sur Rouen. J'avais pas plus que ça de, j'avais pas énormément de contacts en France, donc ça me faisait pas peur de redescendre au FCR et j'ai vécu franchement une belle saison. Une belle saison parce qu'au niveau des résultats, ça suivait. C'était un esprit familial. Il y avait une belle bande de potes et puis bah voilà, avec ma femme, on était bien dans la région. Donc bon, on est resté cette année-là. Mais avec les supporters, ça se passait bien.
Allez, avant de se projeter sur Strasbourg, est-ce que Amaury, toi, tu as une petite question pour Anthony?
Oui, on parlait tout à l'heure du coach Assad Orient qui est pour toi la référence. Est-ce que tu as gardé souvenir d'un joueur où tu t'es dit, lui, c'est sûr, ça va être le top, le mec qui t'a le plus marqué en jeune, en préfo ou en formation?
Bah, c'est incontestablement c'est Gaël.
C'est Gaël.
Bah, déjà, bah, tout à l'heure, on parlait aussi de derby en off. Quand il y avait Lens-Lille à 14-15 ans, c'était Kakuta contre Hazard.
Ah oui.
Et sur le terrain, il y avait des étincelles. Les deux, c'était. Mais Gaël, plus jeune, ouais, j'ai vu faire des choses en fait que là, même encore aujourd'hui, à mon niveau, là, je ne vois pas. 13-14 ans, il va lober le gardien à l'engagement. C'est 50 mètres, mais faut le mettre le lob à 12-13 ans.
Tu as stage là,
J'ai vu mettre des coups francs pied droit dans un derby contre Lille. Alors qu'il est gosse. Non, c'était incroyable. Gaël, il a un
il a un
don.
talent, oui.
Il a un truc inné. Et je suis franchement, je suis pas déçu, mais frustré de sa carrière en fait.
Il
Parce
était
qu'elle ne
bon là,
reflète
justement.
pas du tout, mais du tout, le joueur que ça aurait pu devenir. Attention, hein, Gaël, c'est Gaël, hein, il peut te débloquer un match ou sur un dribble, il y a de la magie. Mais
Tu le voyais
je
peut-être au
pense que
plus haut
tous
niveau que ce
les
qu'il
gens,
a.
les joueurs enfin, qu'il a côtoyé vous diront la même chose. Il était prédit à un avenir qui est différent du sien aujourd'hui. Et après, il y a d'autres choses aussi qui entrent en compte à ce moment-là. Voilà, ça reste, il part à Chelsea. Il y a un aspect financier. Gaël, il n'a pas grandi avec une cuillère en argent, une cuillère en or dans la bouche. Donc moi, à ce moment-là, je comprends parce que je suis au quotidien avec lui, son choix. Mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Je me rappelle à l'époque, c'était vachement discuté et discutable hein, parce qu'il était jeune. Mais ouais, j'ai ce petit goût amer par rapport à sa carrière, mais en tout cas sur le joueur le plus talentueux, le plus en fait, c'était au-dessus du lot. C'était il y avait au-dessus du lot et au-dessus du lot, bah, c'était ça. C'est vraiment c'était incroyable, incroyable.
Ouais, ben, puis on l'a vu, hein, on a tous été éblouis malgré tout quand il est revenu au Racing la saison dernière et on était tous heureux de le
Mais
revoir
c'est vrai qu'en
venir.
jeune, juste en jeune, moi je m'arrivais à l'époque d'aller voir beaucoup de matchs des jeunes. Ouais, c'était un extraterrestre, c'était vraiment un
Moi,
extraterrestre.
c'était un extraterrestre.
Vraiment.
Ouais. Bah, j'ai pas eu la chance de le voir aussi jeune, mais en tout cas, même rien qu'aujourd'hui encore, je trouve que son retour au Racing a fait du bien et a permis à ce Racing de se redorer le blason qui avait été un petit peu écorché, on va dire, ces dernières années. Merci Anthony, hein, en tout cas d'avoir joué le jeu de l'interview. Tu
Avec
restes avec
plaisir.
nous rapidement jusqu'à la fin pour parler de Strasbourg, qui sera le prochain match, hein, du Racing Club de Lens, puisque le Strasbourg c'est aussi un Racing. Ce sera dimanche 13h à la Méno pour les Lensois, des Strasbourgeois qui sont quand même étonnants, hein, cette saison, cinquième de Ligue 1, bien candidat aux places européennes, des Strasbourgeois qui n'ont perdu qu'un seul match depuis la reprise de janvier, qui restent sur 6 victoires, 4 matchs nuls. On se souvient malgré tout de la défaite à Bollaert au match aller, même si à l'époque Strasbourg n'était pas aussi bien que ça. C'est peut-être ce qui les a lancés finalement de s'imposer à Lens. Mais aujourd'hui, le Racing Club de Strasbourg est favori face au Racing Club de Lens, Guillaume.
Ah, ils sont favoris, surtout à domicile. Ils marquent pléthore de buts. Ils ont une attaque prolifique. Ajorque, Gamero, Diallo. Enfin voilà, ils ont une ligne offensive que bah ils ont. Nous, on a des bons joueurs offensifs, mais on voit bien que dès qu'on a un ou deux blessés, voilà, c'est un peu dur de trouver des remplaçants à Kalimuendo ou même à Saïd qui est pas forcément qui est là que par intermittence. Donc effectivement, ils sont largement favoris. Maintenant, c'est le genre de match, je pense, où. Bon, après, c'est à 13h, donc ça, c'est pas bon pour nous. Mais on a trop de mauvais souvenirs à 13h cette
Ensemble
saison.
défaite.
Mais c'est le genre de match où on va pas devoir aller faire le jeu comme un Metz, où ils vont, je pense, voilà, pour prendre leur jeu en main. Et nous, bah, on aura notre petit Joe Klaus aussi qui, j'espère, sortira d'une belle semaine en équipe de France et que du coup lui aussi sera son retour à la maison. Et je me rappelle du match l'année dernière où bah, c'était un peu bon, Strasbourg était plus dans la difficulté, mais voilà, on s'était imposé 2-1, voilà. Donc c'est pas forcément une position qui nous déplaît. Donc après voilà, Strasbourg reste
Être
dans,
outsider, ouais.
voilà. et
Ouais.
puis et puis bon, faudra effectivement que les occasions, faudra qu'on arrive à les marquer. Et si on a, faudra avoir notre ligne offensive sur ce match, parce que c'est ça qui va être un peu peut-être le point à regarder. Ouais. Sans Sotoka, sans Saïd, bon, bah, peut-être Ganago qui retrouve un peu de forme. Et puis
Ouais. Bah, tu disais, hein, les trois de devant, hein, tu parlais des trois de devant Strasbourgeois, chacun, ils ont au moins marqué 10 buts cette saison. Hein, donc déjà, ça te plante le décor quand même. Plus, tu as un Adrien Thomasson qui est milieu de terrain, qui score aussi pas mal. Donc,
Sera absent, Thomasson.
comment?
Thomasson sera absent, je pense.
Ah ouais, bah, c'était encore la question. Hein. J'ai vu qu'il avait été absent dernier match. Il est blessé et c'était la question. Ouais. On sait pas encore. On n'a pas encore vu le groupe, mais en tout cas, elle est inquiétante. Mais malgré tout, être outsider à Maurice, c'est pas pour déplaire non plus au Racing.
Non, c'est sûr. Moi, j'ai vraiment ce sentiment de revanche par rapport au match aller.
Ouais.
Si je dis pas de bêtises, c'est le match de l'expulsion de Kevin
Ah
Danso.
ouais.
Alors, j'ai rien contre le club, mais vraiment ce match-là, il m'avait vraiment remonté parce qu'ils nous battent sans vraiment remonter. Montrer, pardon, à 10, même à 11 contre 10, on n'est pas vraiment en difficulté. Mais certes, ce n'est pas le même Racing qu'aujourd'hui. Néanmoins, ils font une vraie belle saison. Ça l'a réussi. Là, je crois qu'ils sont à 7 matchs sans défaite. Enfin, c'est vraiment solide. Mais oui, c'est un match qui va forcément plus nous convenir qu'un match contre Metz ou qu'un match à Lorient qui a bien fermé aussi et qui avait été malin dans le jeu. Mais c'est un vrai bon test. Je pense que c'est une bonne manière de prendre la Ligue 1. Si on gagne ce match-là face à un concurrent direct, ça peut vraiment lancer notre sprint final. On le disait tout à l'heure, mais on joue aussi six prétendants à l'Europe, là, les 6 matchs qui viennent. Moi, je pense qu'il faut les prendre vraiment de manière positive. On a la chance de les jouer avec pas grand-chose à perdre au final. Donc, il faut vraiment continuer à jouer notre jeu. Moi, je suis vraiment un fervent supporter du coach. Il faut vraiment continuer avec le style de jeu qu'on a. Certes, ça va être compliqué offensivement encore sans l'absence de Sotoka. Même si je suis pas son premier défenseur, il faut reconnaître que contre Clermont, il a encore fait un match vraiment impressionnant. Donc,
Ouais.
Donc ça va pas être évident, mais moi je fais plutôt confiance à Ganago, que j'ai pas trouvé mauvais encore le dernier match avec Kalimuendo. Je pense vraiment que ça peut le faire. Et j'ai bon espoir en fait qu'on gagne ce match-là pour lancer notre sprint final de la meilleure des manières.
J'aimerais bien voir Ganago marquer, moi. C'est vrai que ça me ferait du bien.
Et moi aussi, contre Clermont, en fait, j'étais le premier. Alors que c'est pas forcément derrière lequel je suis, mais là, j'avais vraiment envie qu'il marque parce qu'il l'aurait mérité. Ça lui aurait fait vraiment beaucoup de bien.
Et pour le Racing et surtout pour lui, lui redonner un petit peu cette confiance dont il manque. Ganago, qui est d'ailleurs qui joue avec le Cameroun demain, match retour pour la qualification africaine à la Coupe du Monde. On disait, Greg, pas de Florian Sotoka sur ce match-là. Pas de Kevin Danso non plus, il me semble.
Ouais, c'est quand même.
C'est deux piliers malgré tout de l'équipe type de Franck Hez. Qu'est-ce qui va pouvoir faire la différence pour les Lensois
C'est des piliers, puis c'est surtout deux joueurs qui ont un gros volume physique. Alors évidemment, dans l'impact défensif, Kevin Danso, c'est quelqu'un qui amène énormément. C'est quelqu'un qui va très vite, qui peut combler aussi en couverture. Et Florian Sotoka, même si c'est pas un défenseur, c'est quelqu'un qui a une énorme énergie, qui met énormément d'énergie à la récupération, dans les récupérations un peu plus hautes. Donc c'est un vrai test pour Lens, parce que c'est deux joueurs très importants dans la récup, des deux côtés, que ce soit évidemment dans la surface de réparation du Racing ou à peu près aux quatre coins du terrain pour Florian Sotoka. Donc ça, c'est une vraie interrogation. Alors c'est vrai, Guillaume, je suis d'accord avec toi, c'est une sacrée armada offensive le Racing Club de Strasbourg, mais ils ont mis deux buts sur les quatre derniers matchs. Ils sont un peu, il faut voir s'ils vont pas se crisper un peu, parce que là clairement aujourd'hui tous les mondiaux regardent un peu, ils sont un peu favoris quand même entre guillemets de ce match, mais aussi ils ont aujourd'hui une très très belle ils ont de quoi aller en Coupe d'Europe, ils le savent, et tout le monde les regarde un peu plus. Donc ça c'est une vraie, au niveau psychologique, il va falloir voir s'ils sont capables d'assumer. Le Racing Club de Lens sera pas favori, mais à l'aller, et Amoré l'a très bien dit, à l'aller, même à la dernière minute, il y a un double poteau et un ballon dégagé sur la ligne, alors que Lens était à 10 depuis 35 minutes. Strasbourg a vraiment rien montré, c'était pas le même Strasbourg qu'aujourd'hui. Mais moi je pense que Lens a effectivement rien à perdre. Et puis c'est le moment de faire basculer la saison du bon côté, quoi. Donc c'est un énorme match dans une ambiance à la Méno, c'est le foot. Même si c'est pas l'Europe, c'est des avant-goûts de matchs qui donnent bien envie. Et tant que Lens gardera cet espoir là, en tout cas de faire survivre l'espoir, c'est l'objectif de dimanche, parce que derrière il y aura des Nantes, des Monaco, des Montpellier qui viendront à Bollard. C'est des équipes qui seront aussi, il y aura Lille évidemment dans le derby juste après aussi. Il y a Nice qui arrive la semaine d'après, donc l'idée c'est de pas perdre à Strasbourg pour garder cet espoir là, la flamme, et de s'offrir des matchs à Bollard qui risquent d'être sacrément volcaniques.
tu vas avoir l'occasion de regarder le match, Anthony, dimanche.
Ouais, balance. Au-delà du fait que ce soit mon club de cœur, je me régale à chaque fois que je les vois jouer, même quand une équipe plaisante à regarder. Et puis je rejoins complètement Greg. Je pense que quand même ce match à Strasbourg, par rapport à la fin de saison, c'est mon avis, mais je pense que c'est un petit tournant. C'est un petit tournant parce que derrière, tu reçois Nice. À la maison, c'est avec l'ambiance, il restera 6 matchs derrière, le public sera là et les joueurs seront motivés. Derrière, c'est le derby, donc c'est pareil, c'est des matchs. Pour moi, c'est pas Nice ou c'est pas Lille les tournants de cette fin de saison, ou qui conditionnent la fin de saison. C'est vraiment ce match à Strasbourg qui est important. C'est en tout cas ce que je pense.
En tout cas, c'est une belle tête de Coupe d'Europe avant l'heure, cette fin de saison pour Lens.
C'est clair. Les enchaînements là, de matchs, on va se mouiller la nuque.
Bon, messieurs. J'espère que la trêve sera meilleure, parce que la dernière trêve internationale, je crois que c'est. On reprend par Brest, on prend une tarte et après, on gagne pas pendant 4 matchs. Donc, j'espère qu'on va être un peu plus.
Ouais. C'est ce qui peut arriver à Strasbourg du coup, parce qu'effectivement, comme Greg le dit, ils commencent ils sont beaucoup plus médiatisés comme nous on l'était à un moment. Ils commencent à être sur le devant de la scène, on commence à parler de Julien Stéphan et la Coupe d'Europe et Strasbourg et Trucmuche et du coup c'est toujours un moment délicat. Et comment un club peut passer cette étape où il passe de l'outsider vraiment à ça y est, il peut plus se cacher là. Donc Strasbourg maintenant ils peuvent plus se cacher, ils sont à la maison, il faut qu'ils battent Lens le dimanche. Donc
La réponse, ce sera justement, comme tu le disais, dimanche à 13h. Il va falloir maintenant vous mouiller et nous donner votre prono, messieurs, pour ce match. Je sais, Greg, que tu avais déjà pronostiqué la semaine dernière.
Je ne sais même plus ce que j'avais dit, d'ailleurs. je dis à peu près la même chose, mais en mieux. Donc, je ne sais pas. Je crois que j'avais dit 2-1 pour le Racing Club de Strasbourg, non? C'est pas ça?
Il me semble que tu avais dit ça, ouais.
Je vais rester là-dessus.
Amaury, ton prono pour le match?
2-1 pour le Racing Club de Lens.
Guillaume.
Ouais, je vais dire 1-2-2.
Début partout. Allez, on termine avec toi, Anthony. Quel pronom
Ah,
pour le
là,
match?
je vois un 3-2 pour Lens, je vois des buts.
Ouais, ça serait bien ça, un 3-2 à l'extérieur là. Ça ferait du bien, on s'amuserait et en plus on serait ravis à la fin du match avec la victoire. Merci beaucoup Anthony d'avoir accepté
Ben,
de jouer
merci
le
à vous.
jeu.
C'était
C'était
bien
un plaisir
sympa,
de te
merci.
recevoir
Pour
et de
moi
discuter
aussi.
avec toi.
Merci Anthony.
Merci
Merci à vous.
à toi, bon courage pour ta fin de saison à Sedan, hein.
Merci, merci, ouais.
Et puis merci Greg, merci Guillaume, merci Amaury pour bien vos avis toujours affûtés à chaque émission. Merci à Alexis également hein, qui derrière son ordinateur gère la technique de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. Vous retrouvez les podcasts bien sûr sur culture101.com et toutes nos plateformes. On se dit à bientôt. Ciao ciao.
À bientôt.
Ciao.
Ciao.